Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Qui n'a pas une fois dans sa vie transgressé les règles établies, dépasser un peu la vitesse autorisée, mentir pour défendre ses intérêts ou en ces temps de confinement, ne pas vraiment respecter le kilomètre de sortie réglementaire autour du domicile. Il y a toujours un degré de fraude qu'on juge acceptable pour un motif personnel, tout le monde triche un peu, s'arrange. Et vous, quel est votre degré acceptable? Quelles sont les règles que vous avez déjà transgressées? Dites-nous tout au 01 45 24 7000 ou sur l'appli de France Inter. On s'intéresse ce matin à ces petites transgressions du quotidien, mais aussi à celles beaucoup plus puissantes, ces lames de fond qui changent le monde, celles qui ont poussé par exemple Rosa Parks à ne pas céder sa place dans un bus. Et dans Grand Bien vous fasse, on a des règles qu'on respecte, et le mardi, c'est Éric Libio et sa chronique, chose presque vue. De quoi allez-vous nous parler, Éric, ce matin? Bonjour.
Bonjour Thomas, eh bien, je me suis rendu compte que dans transgresser, il y a graisser, et en période de fête, ça a fait mon bonheur.
C'est pas graissé de la même façon, mais voilà. J'ai hâte d'entendre votre transgression qui met en appétit. Ce sera tout à l'heure vers 10h30. Merci d'être avec nous ce matin. Grand Bien vous fasse, c'est le mode d'emploi de la vie quotidienne.
France Inter, Thomas Chauvineau, Grand Bien vous fasse.
Et trois invités pour évoquer la transgression aujourd'hui en partenariat avec le magazine Ça m'intéresse. Bonjour Caroline Penaud.
Bonjour.
Vous êtes chef du service environnement et psychologie du magazine Ça m'intéresse. Daniel Marchelli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Vous êtes également auteur de Moi-Je, de l'éducation à l'individualisme aux éditions Albin Michel. Et Yves-Alexandre Talman, bonjour. Yves-Alexandre Talman, en direct de Suisse, vous êtes psychologue et auteur de ce livre « Faire changer les autres sans les manipuler », c'est aux éditions Jouvence. Et pour commencer, je voudrais qu'on se mette dans le bain, si on peut dire ça comme ça, en écoutant ce reportage diffusé en mars dernier sur une chaîne info.
Un mètre et demi, vous êtes trop confinés là. Respectez l'existence entre vous.
Sur le marché de Barbès, il y a moins de monde que la veille, mais les clients s'agglutinent autour des étals.
Il y a certains gens qui sont vraiment vigilants et puis il y en a d'autres, voilà. En plus, c'est des adultes. C'est pas éduquer les adultes.
Du monde aussi se presse sur la promenade des Anglais pour profiter du beau temps. Un air de vacances que la police va interrompre. Pendant une heure, les forces de l'ordre vont arrêter tous les piétons, car certains ont du mal à rester confinés.
Rester le minimum de temps sur la promenade, d'après les autorités.
Ouais. C'est bien, ouais. J'ai mal à être, moi, comme quoi il faut que je sorte de la maison. Hein. Je ne peux pas rester dans la maison, moi.
Les Français sont-ils indisciplinés? Oui, selon ce médecin.
Je pense que les Français n'ont pas bien compris ce que c'était qu'un confinement. Il faut être raisonnable. Quand on voit la Chine qui commence à s'en sortir, le confinement, c'était strict. Il n'y avait personne dans les rues.
C'est ce que vous rappelez au début de votre article dans Ça m'intéresse, Caroline Penaud, c'est que durant les 10 premiers jours du deuxième confinement, 60% des Français ont transgressé les règles. C'est du moins ce que révélait un sondage Infolab Ipsos, Ifop Consolab, je veux dire, en novembre dernier.
Oui, c'est vrai qu'assez vite, on a vu que sur le deuxième confinement au moins, il y avait les règles qui étaient transgressées, peut-être plus qu'au premier, déjà parce que c'est sur la durée que les gens en avaient marre. Et il y a aussi le phénomène que plus on voit les gens se relâcher, et on l'a vu aussi parce que le confinement était moins strict, plus on a tendance à faire pareil. C'est vraiment un phénomène de contagion qui existe pour toute transgression de règles et qui s'est bien vu pendant le confinement.
Vous, en Suisse, professeur Yves-Alexandre Talman, pardon, psychologue, vous qui êtes psychologue, Yves-Alexandre Talman, ça s'est passé comment?
Alors, ça s'est passé, on va dire, relativement mieux, parce que le confinement était aussi un peu plus lâche, on va dire. On a parlé d'un semi-confinement en Suisse, mais je dois dire que la question principale à se poser me semble pas être pourquoi les gens respectent les règles, ne respectent pas les règles, mais justement pourquoi les gens respectent les règles. Et je crois que du moment où on a une information qui est beaucoup plus claire, avec des conséquences qui sont beaucoup plus spécifiées, le respect des règles est aussi beaucoup plus suivi. Donc il y a aussi à voir avec le cadre, plus que directement avec la psychologie individuelle ou de masse, qui effectivement intervient, mais on doit vraiment se poser la question du cadre, hein, qui entoure les règles et des conséquences de l'infraction à ces règles.
Le cadre, c'est précisément cette question que vous abordez, Daniel Marcelli, dans votre ouvrage, hein, « Moi-je » consacré à l'enfant et à la l'enfant et l'adolescent, à la façon dont ils ont précisément de vouloir sortir de ce cadre imposé.
Oui, bien sûr. Dans l'expression transgression, il y a deux éléments. Il y a la loi elle-même, la règle, la limite, la frontière, et est-ce qu'elle est justifiée, pas justifiée. Et puis il y a l'acte de passer par-dessus la frontière et d'aller au-delà. Et moi, je dirais qu'il y a trois grandes sortes de transgressions comme ça, trois grandes éléments. Il y a la première que j'appellerais la transgression noble, c'est la curiosité, c'est d'aller voir dans le champ d'à côté, c'est d'aller voir au-delà de la règle, de découvrir quelque chose. Et la deuxième, c'est une transgression qui est plus égoïste, je dirais, c'est chercher son intérêt, y trouver, voilà. Et puis la troisième, qui est peut-être là en lien justement avec l'éducation contemporaine, c'est la transgression où dès qu'il y a une limite, elle n'est pas supportée, parce qu'elle est perçue comme une entrave à notre totale liberté, ou peut-être même encore plus à notre totale toute-puissance. Chaque règle est vécue comme une amputation de ce droit qui serait essentiel à chaque individu. Alors la plupart des transgressions, c'est un mélange de tout ça, d'où la multiplicité. Mais je crois que l'élément le plus essentiel peut-être aujourd'hui, c'est que chacun se juge et s'estime comme celui qui établit ses propres règles. C'est d'ailleurs la raison, comme l'a dit l'orateur précédent, Monsieur Talman, une règle, pour qu'elle soit respectée, elle doit être, je dirais, acceptée et comprise par l'individu. Elle ne peut plus s'imposer contrairement à son désir. Voilà, elle lui tombe dessus et il faut qu'il lui obéisse. Ben maintenant, ça fonctionne plus comme ça. Chaque individu estime qu'il a à juger lui-même de la pertinence pour lui-même, éventuellement pour les autres, si justement il accepte de se décentrer de lui-même, mais c'est cet effort de décentrement qui est pas toujours évident. Donc juge pour lui-même et éventuellement pour les autres si cette règle elle est pertinente ou pas, et s'il doit ou pas, et s'il a accès, et s'il la respecte ou pas. Voilà. Donc c'est effectivement plus la dimension de respect de la règle que la volonté de transgresser chez beaucoup. Il y en a d'autres qui, quand même, dès qu'il y a une règle ou dès qu'il y a une limite, ne le supportent pas. Il faut immédiatement que cette règle soit contournée. Voilà.
Dans le petit reportage qu'on entendait en début d'émission, un médecin disait les Français, il le disait pas tout à fait comme ça, mais enfin c'était ce qu'il sous-entendait, les Français transgressent. Et il y a une enquête qui date quand même de 2014, j'imagine que ça n'a pas beaucoup changé depuis, qui place la France avant dernière au classement du civisme en Europe, donc 27 sur 28 États membres, l'opinion publique française étant plutôt tolérante face aux incivilités. Mais pour arriver à ce résultat, des chercheurs se sont penchés sur la façon dont chaque pays transige ou non avec certaines règles, en posant 5 questions. Comprenez-vous qu'on puisse percevoir indûment des indemnités, frauder le fisc, utiliser sans permission la voiture d'autrui, mentir pour défendre ses intérêts et accepter des pots de vin? Eh bien, résultat, 62% des Français trouvent justifiable de réclamer des aides publiques indues, 37% d'acheter un bien volé et 42% quand même d'accepter des pots de vin dans l'exercice de ses fonctions. Daniel Marcelli, à votre avis, est-ce qu'il y a un côté, un rapport franco-français à cette transgression, à ces transgressions ?
Ouais, il faut éviter d'être dans une forme d'essentialisme en disant les Français sont des rebelles, etc. Je crois que c'est peut-être plus compliqué que ça. Et entre parenthèses, effectivement, moi, j'ai pas particulièrement envie de vivre en permanence en Chine avec, on sait quand même, la dureté et l'intransigeance de certaines règles. Alors effectivement, nous, peut-être en France, on est marqué par le jacobinisme qui a toujours été le centralisation, qui a toujours été vécu comme quelque chose qui nous était imposé par rapport aux régions, par rapport à notre situation dans notre petit village ou dans notre endroit. Donc il y a cette tension permanente. Et là d'ailleurs en ce moment, avec les histoires du confinement et d'éventuels troisième confinement, on le voit, on le perçoit, puisque il y a l'État qui voudrait donner des règles, il y a les régions ou les maires qui disent faut faire ceci, faut faire cela. On voit bien l'écart. Je pense pas qu'il y a que notre pays. Prenons les États-Unis, ça a été un peu la même chose. La tension entre le niveau fédéral et le niveau des différents États, avec des règles ou des désirs qui étaient contradictoires. Donc je pense que c'est aussi en grand lien avec la construction de la nation et avec le sentiment de la nation. Alors nous sommes à la fois un peuple solidaire quand on nous attaque ou quand on est en danger, comme un certain nombre de peuples, et un peuple très rebelle ou qui n'aimait pas ne recevoir comme ça des ordres du roi. N'oublions quand même pas qu'on a coupé la tête au roi, qu'on est un peuple régicide et que effectivement il y a derrière ça le fait que toute loi est perçue comme quelque chose de potentiellement insupportable. C'est, je pense, la difficulté des politiques aujourd'hui.
À Genève, par exemple, on trouve des échiquiers géants avec des pièces grandes comme des enfants. Ça viendrait à personne l'idée de les voler. On peut aussi acheter son journal, Yves-Alexandre Talman, vous qui vivez en Suisse, en déposant simplement une petite pièce dans une caisse et récupérer le journal et pas tous les journaux qui se trouvent dans la caisse.
C'est effectivement le cas. Moi, je dirais que derrière toute cette question-là, il y a surtout les conséquences de l'infraction. Selon la petite formule que j'aime bien mentionner et qui est relative au monde du sport, on dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne dans un sport. Et j'ai l'impression qu'en psychologie, c'est exactement la même chose, mais en termes comportemental. Autrement dit, on ne change pas un comportement qui gagne. Ça veut dire, tant que j'ai du bénéfice à faire ce que je fais, je continue à le faire. Et du moment où j'enfreins une règle et qu'il ne m'en coûte rien du tout, alors je vais continuer. J'ai une petite anecdote à ce propos. Alors je reviens en France, c'était au début de ce qui allait devenir le deuxième confinement, notamment les villes, les grandes villes qui passaient en couvre-feu. Et je me souviens d'avoir vu au journal télévisé un restaurateur marseillais qui avait ouvert, malgré l'interdiction, qui avait ouvert sa terrasse et il servait des clients. La police est arrivée, ils ont évacué le tout. Et le journaliste a demandé au restaurateur, en fait, comment il vivait ça. Et puis il a pointé vers son frigidaire en disant, vous voyez, j'avais des denrées pour une grande quantité, enfin pour une grande somme, et j'ai pu l'écouler. Et donc, l'amende que j'ai reçue, je crois que c'était 135 euros, de toute façon, elle est compensée par ce que j'ai pu vendre de marchandises. Et le journaliste de lui dire, alors, vous ouvrirez à nouveau demain. Et là, il prend le recul et il dit, non, pas du tout. Mais pourquoi? Ben, parce que la récidive, c'est 10 000 euros. Autrement dit, c'est le coût de la transgression qui détermine si on va continuer à transgresser la règle ou pas. Et là, peut-être, c'est la question à se poser à travers les différents pays. Qu'est-ce qui se passe si je transgresse une règle? Est-ce que je peux être en état d'impunité et continuer? Ou bien il m'en coûte tout de suite un prix prohibitif qui fait que j'arrête?
Vous posez la question dans votre magazine, Caroline Penaud, c'est finalement qui n'a jamais transgressé. Vous prenez cet exemple des dépassements de limitation de vitesse. 91%, c'est une étude française, mais 91% des Français l'ont fait.
Oui, c'est ce que montrent toutes les études sur les transgressions des règles, c'est que tout le monde les transgresse un petit peu, mais va pas au-delà d'un certain coût. C'est ce que disait Monsieur Talman juste avant, c'est-à-dire qu'effectivement on va accepter de payer une amende de 135 euros, mais pas 10 000 euros. Et on va faire un petit peu le rapport entre le coût et les bénéfices de ce que ça va me rapporter. Et le coût, ça peut être l'amende, le fait d'être sanctionné, mais ça peut être aussi par rapport à l'image qu'on a de soi. C'est-à-dire qu'on va accepter une petite transgression en se justifiant soi-même, en se racontant une histoire, en se disant voilà, bon, bah j'ai voler des fournitures dans mon entreprise, mais j'ai fait des heures sup, ou j'ai dépassé, mais seulement de quelques kilomètres heure sur la route. Et on va pas aller au-delà de ce que pourrait nous coûter notre image. C'est-à-dire que voilà, on veut conserver une bonne image de nous-mêmes, et donc on ne va pas trop loin dans la transgression.
On reste, on prend ses précautions, on reste toujours, on a son image acceptable, c'est ça que vous voulez
voilà,
dire.
Voilà, c'est ça, c'est vraiment.
On peut continuer à se regarder dans le miroir.
C'est vraiment deux forces qui nous tiraillent. D'un côté, le bénéfice que je peux avoir de transgresser cette règle, mais voilà, que ça ne me coûte pas trop, que ce soit financier ou autre.
Les transgressions sont au menu de Grand Bien vous fasse ce matin. Qu'est-ce qui pousse à transgresser? Qu'est-ce qui nous motive? Est-ce qu'il peut y avoir du bon dans la transgression? Est-ce qu'on peut enfreindre les règles sans culpabiliser? Est-ce que c'est comme ça, comme le chante Lerita Mitsuko, et pas autrement? On attend toujours vos réactions, vos commentaires, vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'appli de France Inter. Enfin du venin qui me fait mal au 6h23 sur France Inter. Vous avez reconnu forcément les Rita Mitsouko, c'est comme ça. C'est Muriel Pérez qui choisit la musique. Claire Destacan réalise l'émission avec à la technique aujourd'hui Jenab Sangaré, Henri Derek, Julia Macarez, Manon Cancé, Alexia Rivière et Théo Denmat m'ont aidé à la préparation.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories.
Grand bien vous fasse.
Ceux qui ont un pistolet chargé.
Thomas Chauvineau.
Et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Sur France Inter.
Et on s'intéresse aux vices, mais aussi aux vertus de la transgression aujourd'hui dans Grand Bien vous fasse avec trois invités. Caroline Penaud du magazine Ça m'intéresse, notre partenaire pour cette émission aujourd'hui. Daniel Marcelli, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescence. Et Yves-Alexandre Talman, psychologue. Et avec vous également sur franceinter.fr ou sur l'appli de France Inter, vous nous écrivez. Jean-Luc nous dit par exemple « Ma seule transgression durant les confinements a été solitude pour solitude de fuir les foules en allant à 2 kilomètres de chez moi. Lire et photographier dans un champ caché par les haies d'aubépine. » Et puis Florence nous dit « J'ai vécu 35 ans à l'étranger, aux Pays-Bas, et je suis horrifié tous les jours par l'indiscipline des Français. J'ai l'impression que c'est lié à notre individualisme et notre incapacité à raisonner en groupe. » Caroline Penaud, les spécialistes se sont intéressés au profil de ceux qui dérogent le plus aux règles. La classe sociale, l'appartenance politique ou religieuse joue un rôle absolument négligeable dans les transgressions.
Oui, c'est ça qui est étonnant. On pourrait imaginer que ça a une influence. Et il y a une influence de la richesse, par exemple, mais très peu de l'intelligence, alors qu'on pourrait s'attendre à ce que ça ait plus de poids. Par contre, il y a le rôle de la créativité a été montré par plusieurs chercheurs. Et ça, c'est assez intéressant. Il y a des études qui ont été menées où on demande à des gens de résoudre des énigmes, etc. Et on leur donne la possibilité, même s'ils ne le savent pas, de tricher ni vu ni connu, en gros. Et on se rend compte que ceux qui vont tricher ont été beaucoup plus créatifs dans la résolution des énigmes. Comme si un peu le mensonge et la créativité se nourrissaient mutuellement.
Donc les transgressifs sont des créatifs.
Voilà, c'est un peu cette idée-là.
Ou alors les créatifs sont des transgressifs.
C'est un peu les deux. Et c'est l'idée que la créativité, ça permet aussi de se raconter une histoire à soi-même aussi, toujours dans l'idée de garder une bonne image de soi. Voilà, cette créativité va nous permettre de nous justifier, de nous dire « bon ben voilà, je transgresse, mais pour une bonne raison ».
Daniel Marcelli.
Oui, écoutez, c'est tout à fait exact. La question de la créativité est essentielle. Revenons sur ce sondage de 91% de gens qui transgressent. C'est pas ces 91% qui sont intéressants d'une certaine manière, c'est les 9% qui ne transgressent pas. Les 9% qui sont dans une forme peut-être de soumission, de rigidité, d'application intangible d'une règle. Je ne pense pas qu'il y ait là beaucoup de créativité. Fondamentalement, la créativité, c'est un acte de transgression. Donc, c'est d'aller au-delà, découvrir autre chose, de faire quelque chose de nouveau par rapport à ce qui se faisait avant. L'art est fondamentalement créatif et transgressif. Donc effectivement, je ne pense pas que tous ceux qui transgressent soient créatifs, ça je ne pense pas, mais en revanche je pense que tous ceux qui sont créatifs ont une dimension de transgressivité dans leur fonctionnement psychique, c'est-à-dire une forme de souplesse, une forme de jeu avec la règle, de jeu autour de la règle, qui donne un élément essentiel dans la psychologie qu'on n'étudie pas souvent. C'est ce que j'appelle, moi, la souplesse psychique, faire preuve de souplesse. Eh bien, effectivement, dans la transgression, il y a cet élément-là. Je parle évidemment des petites transgressions et pas des transgressions de tuer son prochain ou des actes, effectivement, gravissimes. Hein. Mais cette aire d'aménagement de chacun, c'est l'aire de confort et l'aire de la souplesse psychique. Je pense que c'est quelque chose qui est vital à chacun. Et peut-être que l'art de la vie française, parce qu'on dit aussi beaucoup que la France, bien qu'on se plaigne, bien qu'on se dise malheureux, pour les autres peuples, on est souvent un peuple particulièrement intéressant, etc. L'art de vie française, peut-être qu'il est aussi autour de cette capacité à transgresser gentiment. Voilà.
Julien est au téléphone au standard 01 45 24 7000. Bonjour Julien.
Oui, bonjour, je vous appelle de Nantes et je confirme que les personnes qui sont créatives sont transgressives, oui. À propos de transgression, j'aime bien jouer avec le feu. Un psy me disait il y a très longtemps que j'étais borderline, oui. Et à propos du confinement et du couvre-feu, j'ai déjà bravé 3 fois le couvre-feu. Et s'il fallait le faire, eh bien, je le ferais, voilà.
Pourquoi ?
Pas un plaisir, mais j'aime bien un petit peu aller contre l'ordre établi. je n'aime pas qu'on m'impose quelque chose, donc je vais consciemment et inconsciemment, je joue avec le feu et je nie pas.
Même si vous savez que c'est pour le bien de la société.
Oui, cela dit, si je sors, donc je m'en masque, hein. J'essaye d'être loin de la personne si j'en croise une et j'ai mon masque. Mais je travaille dans le paramédical, donc je connais tous ce que ça implique. Mais dès lors que j'ai mon masque, j'ai les mains bien nettoyées et que je suis au moins à 2 mètres d'une personne, je vois pas où est le souci. Donc c'est pour ça que j'aime bien jouer.
Et est-ce que vous vous sentez un peu coupable, Julien ?
Pas vraiment. C'est comme avec les impôts, je disais à la technique, ça arrive très... à l'époque, on payait les impôts, à chaque fois, j'ai payé en retard. Pas 3 mois, mais 4, 5, 6, une semaine. Et je sais très bien que j'ai jamais eu de... Enfin, ils sont pas aussi durs que ça. Ils m'ont jamais donné de majoration pour une semaine.
Merci de nous avoir appelé donc
de
Nantes,
voilà.
Julien. On a bien compris que vous étiez joueur et que vous aimez bien repousser un peu la limite. Et c'est ce que vous appelez, Yves-Alexandre Talman, finalement le degré de faute acceptable.
C'est ça, oui, le degré de faute acceptable. Et on voit bien ici ce qui se passe, à savoir la personne enfreint la règle, donc sort, mais respecte la règle qu'elle juge importante, c'est-à-dire la distanciation sociale, le port du masque, etc. Ça nous questionne vraiment sur le bien fondé de la règle. Autrement dit, si on applique une règle, qu'elle soit imposée de l'extérieur ou qu'on se l'auto-impose, hein, c'est parce qu'elle a du sens pour nous. Alors, je peux effectivement dépasser la limite de mon confinement, mais je ne vais pas pour autant embrasser les gens, leur serrer la main et produire un risque comme ça. Donc, quand les gens ne respectent pas les règles, on doit aussi s'interroger à quel est le sens de cette règle. Autrement dit, d'une part, pourquoi on le fait, et d'une autre part, qu'est-ce qui peut arriver si je ne le fais pas ? Et par rapport à l'histoire des impôts, on voit bien, si je prends un délai, bon, ben, j'ai peut-être une remontrance, mais j'ai pas une sanction importante. On imagine que la personne qui aurait un jour de retard sur sa déclaration, elle se verrait infliger une amende, disons, de 10 000 euros, mais je crois qu'il y aurait quasiment plus personne qui prendrait du retard. Par contre, qu'est-ce que ça a comme sens du moment où je donne ma déclaration en temps et heure et que de toute façon, je dois attendre des mois pour après avoir on va dire le retour de l'autorité, on se rend bien compte que cette règle-là n'est pas importante ni dans le sens, ni dans l'effet et la sanction qu'elle peut produire.
Daniel Marcelli, vous vous intéressez plus spécifiquement à l'enfance et à l'adolescence et vous racontez dans votre ouvrage que devenir adulte, c'est un travail de renoncement à la toute-puissance du monde de l'enfance et aussi d'acceptation de contraintes, donc en l'occurrence là, celle de la société, qui passe une acceptation, hein, qui passe parfois par une phase un peu complexe qu'on appelle l'adolescence. Mais est-ce que ces petites transgressions que nous vivons en tant qu'adultes ne sont pas finalement des soupapes qui nous permettent de continuer à vivre ce passage ?
Ah, c'est ce que j'ai un peu dit tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, on ne peut pas vivre, me semble-t-il, dans une soumission permanente à toutes les règles sans exception, sans se créer à soi-même son espace d'aménagement. Alors effectivement, il y a eu un changement énorme dans les 30 dernières années. Ce changement, c'est le passage au fond du statut de sujet au statut d'individu. Et on ne réfléchit pas assez sur le sens de ces deux mots. N'oublions pas que sujet, ça vient du latin subjectum, et être placé sous l'autorité du Seigneur, sous l'autorité du chef de famille, sous l'autorité du roi. Le sujet, il est structuré autour de l'autorité, donc de la règle, donc de l'obéissance. Alors que l'individu, ce qui le caractérise, c'est la capacité de choisir sa vie, choisir, faire ses choix. Et donc l'individu, ce qu'il veut, c'est organiser sa vie et choisir ses propres règles d'une certaine manière. Alors évidemment, il y a toujours une tension entre les règles à soi et les règles de la société. Et cette tension, ben, c'est justement ce qu'on essaye d'aménager. La personne tout à l'heure qui intervenait en disant qu'elle triche un petit peu, montrait bien qu'elle trichait pour une forme de confort, d'aller se promener, etc., ou d'aller faire des photos, mais en même temps de faire attention quand même aux autres et d'être respectueux des contraintes sanitaires que cela entraîne. Donc c'est ce jeu-là. Alors évidemment, le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont au-delà de toute règle, qui sont hors la loi, hein, hors la loi au sens vraiment étymologique réel du terme. Ils ne veulent aucune loi, ils en ont rien à faire des autres, ils veulent faire. Alors l'État, le gouvernement doit faire avec cette diversité-là. Donc il donne des règles, parfois effectivement un peu difficiles. Mais quand il y a cette récidive, c'est intéressant la récidive. La notion de récidive est intéressante. Ça veut dire que on a appris de l'expérience, comme nous l'a dit très bien notre monsieur Thalmann. On apprend de l'expérience, on se fait éventuellement sanctionner. Et puis si on doit avoir une sanction plus grosse, on fait attention. On a appris de l'expérience. Il y a des gens, il y a des personnes qui n'apprennent rien de l'expérience et qui continuent à transgresser. Jusqu'au jour où ils se trouvent en prison, où ils se retrouvent avec des peines à accomplir. La récidive est un élément essentiel, voilà, pour comprendre le sens de la transgression et éviter la récidive.
Alors ça peut être parfois compliqué de vouloir changer l'ordre établi, surtout quand on veut tout changer, y compris les jours de la semaine après l'avènement d'un nouveau monde. Mais quand c'est l'humoriste Blanche Gardin qui s'y colle, ce qui est compliqué devient très très drôle.
Mais il a raison, je rappelle la raison. Aujourd'hui c'est le premier jour de notre monde. T'as d'ailleurs vu que c'est le premier jour, on dit quoi, on est lundi ?
Non, on est jeudi.
Si on commençait par un jour férié, hein, on va tous se recoucher, symboliquement c'est fort.
Non mais Dylan a raison, si on décide aujourd'hui qu'on est lundi, aujourd'hui, on est lundi.
Lundi, mardi, c'est pas un peu Babylone quand même ?
Si, c'est complètement Babylone le nom des jours.
Non mais du coup, on est quel jour alors ?
Eh ben, on pourrait dire qu'on est... Aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est Undi.
Undi. Mais aujourd'hui, c'est Undi le premier, du coup ?
Du coup, on garde les mêmes chiffres qu'à Babylone ?
Si on commence à tout changer, là, ça risque de devenir compliqué. Hein.
Si, il faut tout changer, Jean-Paul. On dit qu'on est Undi le Chrisken.
Undi le Chrisken. Mais le Chrisken de quel mois ?
Du Tarkoun.
Du Tarkoun. Ouais. On est Undi le Chrisken du Tarkoun. Ouais. Premier jour de notre monde.
Ouais.
Il va falloir le noter, hein, sinon on va pas retenir. Par contre.
C'est sûr qu'il faut le noter, celui-là, un extrait du film Problemos, réalisé par Éric Judor, avec donc au scénario Blanche Gardin. Daniel Marcelli, vous dites dans votre livre que la société, avec ses règles, c'est finalement l'écosystème de l'être humain. Mais est-ce que la transgression n'est pas de toute façon inhérente à la règle ?
Ah ben, bien sûr, ça, la transgression et la règle se répondent en écho l'une l'autre. Et effectivement, ça, c'est les deux, le verso et le recto de la même médaille. Aller au-delà, la curiosité, comme on a dit tout à l'heure. Donc c'est un élément essentiel. Mais alors là, par exemple, dans ce sketch, si on décrète le monde, ben, par exemple, moi, je peux décréter que B et A, ça fait pas bas, mais que ça fait là ou ça fait gla. Mais je pourrais plus être compris des autres. Donc effectivement, il y a des lois, des modes de vie sociale, pour pas dire des lois, qui s'imposent à l'être humain s'il veut faire partie de la société et s'il veut pouvoir être compris des autres. Et cette société, elle existait avant nous. C'est peut-être un peu le problème de l'individu. Et ça, c'est un élément essentiel. Chaque individu a un peu le sentiment qu'il est là dès le début. La publicité qu'il y avait pendant un certain temps était très intéressante. Born to be me. Né pour être moi. Voilà, je suis moi, dès ma naissance, et la société, elle est là pour me servir, elle est à mon service. Nous, pédopsychiatres, nous savons très bien que l'être humain, le petit enfant, se crée, se structure, s'invente, j'ai presque envie de dire se fabrique, l'être humain se fabrique dans le lien social et grâce au lien social, et dans la société, voilà. Et donc, on a, je dirais, une dette à l'égard de cette société qui nous a fait tel que nous sommes. Et c'est pas la société qui est à notre service, d'une certaine manière. Alors, effectivement, il y a un grand changement aujourd'hui, où l'immense majorité des individus sont convaincus que la société est à leur service et que la société n'est là que pour leur propre confort et leur propre agrément. C'est ce qu'on appelle l'individualisme dans sa phase négative, le chacun pour soi. Hein. Mais derrière ce chacun pour soi, il y a l'idée que l'individu est là dès la naissance. Il arrive comme ça, entier, et le monde est là pour le servir. Alors que c'est une illusion, c'est l'illusion que nos sociétés donnent à chaque individu. et qui est une illusion, je dirais, contraire à ce que j'appellerais la nature de l'être humain, qui est une nature où il est fondamentalement dépendant des autres, dépendant de la société, et qu'il naît, N-A-I-T, il naît dans la société et par le lien social.
Mais puisque vous parlez de la société, la transgression permet aussi de changer la société, de la faire évoluer. Je voudrais vous faire écouter un extrait du documentaire « Les désobéissants, désobéissantes » d'Alizée Schiappani et d'Adèle Faux, qui raconte comment, face à l'urgence climatique, une frange importante de la jeunesse fait le choix de la désobéissance civile et de l'action.
C'est sûr que la sensation qu'on a quand on se rend compte de l'urgence climatique et du fait qu'on a été trompé et berné par l'éducation qu'on a reçue, par la société entière. C'est l'insoutenable légèreté des différents politiques dans les décisions qu'ils prennent. C'est insoutenable en fait. Et le fait de passer à l'action rend les choses soutenables. Le fait de passer à l'action rend la vie soutenable et permet d'avancer sur un chemin qui a du sens.
Un documentaire toujours disponible donc en replay sur le site d'Arte, arte.tv, Caroline Penaud. Là, on ne parle plus du même type de transgression.
Non, parce que là, transgresser une règle ou transgresser une loi ou des normes ou un mode de vie, là, ça répond à des convictions profondes. Alors qu'effectivement, tout ce dont on a parlé au départ, c'était les incivilités. On n'est vraiment pas sur la même ampleur. Mais effectivement, dans ces cas-là, transgresser, déjà, c'est beaucoup plus risqué pour les personnes qui s'y risquent, et ça répond donc.
On le voit bien dans le documentaire, d'ailleurs, certains font de la prison.
Voilà, exactement. Donc là, c'est pour le coup la balance bénéfice-risque est parfois en défaveur des gens qui transgressent les règles, mais qui pensent que leur conviction de vouloir changer le monde est plus importante.
Yves-Alexandre Talman, ça signifie qu'il y aurait plusieurs types de transgressions, d'autres qui seraient plus vertueuses.
Alors, c'est ce qu'il apparaît, effectivement. Je dois dire que, pour moi, je reviens à cette notion de règle, et j'aime bien considérer la règle, en fait, comme un apprentissage accéléré. Prenons l'exemple tout bête d'un enfant, d'un petit, qui s'approche trop près d'une flamme avec sa main, il a directement la conséquence de son acte, ça le brûle. Et donc, pour éviter de faire des apprentissages trop douloureux, les parents vont édicter des règles, ne t'approche pas du feu, autrement ça va te faire mal. Donc dans ce sens-là, la règle est une sorte d'accélérateur de l'apprentissage qui permet de profiter de l'expérience d'autres personnes pour éviter de se faire mal. Là, la règle a tout son sens, mais du moment où on édicte une règle trop générale qui perd son sens particulier en termes d'apprentissage, pourquoi la respecterait-on en définitive si... par rapport, je sais pas, à ma couleur de peau, je peux pas m'asseoir dans le bus à telle ou telle place. On voit bien que ça n'a rien à voir avec un accélérateur d'apprentissage. C'est au contraire un instrument de domination d'une classe sur une autre, par exemple. Et là, on arrive à cette idée de désobéissance civile dans le sens où on voit bien que les enjeux sont fondamentalement différents,
mais dont le moteur reste tout de même la transgression.
Oui, dont le moteur reste la transgression. Mais de nouveau, dans quel but, que me dit la règle et que se passe-t-il si je la transgresse? Et dans ce sens-là, on voit bien que c'est pour un changement et non pas pour quelque chose qui pourrait porter préjudice à nous-mêmes ou à la collectivité. Au contraire.
Il est 10h42 sur France Inter. C'est l'heure de retrouver la chronique chose presque vue d'Éric Libio.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute? Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Et cher Eric, vous avez vous aussi un mot, vos mots à dire sur la transgression?
Et oui, vous posez la question depuis tout à l'heure, Thomas, pourquoi transgresse-t-on les règles? Eh bien, permettez-moi d'essayer d'y répondre en partant du principe que cette question ne fait pas exception à la règle qui veut que derrière les mots se cachent d'autres mots. Cette partie de cache-cache, on la doit bien évidemment à Alain Rey et à son dictionnaire historique de la langue française, beau cadeau de début d'année s'il en est. Alors tout a l'air simple au départ.
Et qu'on peut réentendre tous les matins sur France Inter, un peu avant.
Oui, c'est vrai. Bonne remarque mon cher Thomas. La règle, c'est tout a l'air simple. La règle, c'est ce qui est droit, rigide. Le mot règle vient d'ailleurs de Rey, qui est une barre servant à fermer une porte, mettre une barre en travers de la porte pour la fermer ou empêcher qu'on puisse l'ouvrir. Quant à transgresser, c'est passer de l'autre côté, passer à travers, donc ôter la barre, ôter la règle. transgresser, c'est faire un pas de côté, c'est marcher en dehors des clous. Ce qui d'ailleurs n'est pas très grave, hein, marcher en dehors des clous n'est pas un vice. Alors voilà, c'est clair, je pourrais m'arrêter là. Bonne fête, bonne année à tout le monde. Je pourrais m'arrêter là, c'est vrai. Mais en suivant à l'arrêt, à la trace, je ne peux m'empêcher de passer d'un mot à l'autre, d'un sens unique à un sens giratoire. Bref, je digresse. Et si je digresse, je pense immédiatement aux pommes de terre bretonnes rissolées dans le beurre breton, meilleur plat du monde. Soit dit en passant, mais qu'on se rassure, digresser ne nuit pas à la santé.
Ça dépend de la digression et de la graisse.
Ouais, exactement. Puisqu'il s'agit de ne pas tirer un trait sur la règle, je suis allé voir comment à l'arrêt régler justement son sort à ce mot-là. Alors sans tout savoir d'un mot, on le devine, hein, on l'imagine, de la règle par exemple, on imagine ce qui en découle, régir, régulier, et toutes les expressions, régler son compte, l'exception qui confirme la règle, et puis la règle du jeu, et puis la réglette, le règlement, le rail, la rigole, tout ce qui est droit donc, et puis aussi réglisse. Et oui, Thomas Réglisse, altération de licorice, liqueur, est sans doute liée à régule, dit à l'arrêt, parce que le réglisse est vendu en bâton, hein, le bâton c'est droit. Alors moi, rien que savoir que règle et réglisse sont cousins, je me régale déjà, mais je ne suis pas au bout de mes surprises, car là où je rigole... Ah oui, pardon, attendez, il faut que je digresse un petit peu. Régaler et rigoler sont aussi cousins. Régaler vient de l'ancien français rigal, c'est un bruit joyeux, réjouissance, plaisir. Mais rigal viendrait aussi du mot provençal galet, le gosier, d'où l'expression « boire à la régalade ». Avec modération, évidemment, comme règle. Fin de la digression, merci. Alors, je continue.
Et boire à la régalade finit souvent en rigolade.
Mais Thomas, vous voudriez faire de la radio, vous êtes formidable. Je continue de traverser le chemin des mots et je tombe sur quoi ? Le mot « reille », et pas le mot « oreille », hein, je voudrais bien me faire entendre. Le mot « reille », donc, est une variante de « rille », issue de l'ancien français « regula », celui de la règle, dont je parlais tout à l'heure, j'espère que vous suivez.
On suit.
« Regula » au sens de « bande » et de « lanière ». Et « rille », comme vous le savez, bien évidemment, Thomas, puisque vous savez tout, était un morceau de porc et de lard qu'on peut aussi déguster, si je digresse, avec des pommes de terre rissolées. Un morceau de lard qui se présente en tranches, en bandes et en lanières. Et où est-ce qu'on arrive quand on sait tout ça, Thomas ? Je vous le demande. Eh bien, de règle à rille et de rille à rillette. N'est-ce pas formidable si on suit le chemin d'arrêt ? Sur l'arbre des mots, règle et rillette ont un tronc commun. Et qui dit rillette digresse. Et si je digresse, je me rends à l'évidence. Les règles et la rillette, même combat. Il est donc aussi naturel d'avoir de la graisse dans les rillettes que de la digression dans les règles. C'est QFD, même si j'ai un petit peu fait de mal aux mots.
Merci Eric Libio. Votre chronique est à retrouver sur le site de France Inter à la plage. Grand bien vous fasse. 10h46 et vous êtes bien sur France Inter et avec Paul McCartney. Well, I can find my way, I know my left from right, because we never close, I'm open day and night. I know my way around, I walk towards the light, I'm open round the clock, I don't get lost at night. You never used to be afraid of days like this. Let me be your guide.
know my way around. I walk towards the light. I'm open round the clock. I don't get lost at night.
Extrait de l'album de Paul McCartney qu'il a réalisé tout seul pendant le confinement. Et Find My Way, c'est le titre de cette chanson qu'on vient d'écouter.
C'est à moi, tu touches pas.
Par contre, tu laisses.
Elle a dit c'est à moi.
Non, mais elle est pas habituée.
Grand bien vous fasse.
Là, c'est pas quoi.
On essaie de les préserver du concept de propriété ici, c'est très important pour nous. Donc,
Thomas Chauvineau.
Règle numéro 1.
D'accord.
Moi, je veux mon iPad.
Sur France Inter.
Grand bien vous fasse, consacré aux transgressions ce matin avec trois invités. Caroline Pénaud, journaliste à Ça m'intéresse. Daniel Marcelli, qui est professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et puis Yves-Alexandre Talman, qui est psychologue. Sur franceinter.fr, ces messages qui nous arrivent, notamment celui-ci sur le site de France Inter. Les transgresseurs ne sont-ils pas des petits bourgeois qui oublient trop facilement qu'ils perçoivent des avantages de toute nature en refusant la contrepartie qui consiste, pour une société digne de ce nom, à établir un équilibre entre droit et devoir. Et puis Pierre nous dit, oui, j'ai déjà transgressé des règles en traversant la route, par exemple, alors que le piéton est rouge. Mais s'il n'y a pas de voitures qui veulent passer à ce moment-là, je ne vois pas le mal, en fait. Et puis nous sommes aussi au téléphone avec Caroline. Bonjour Caroline.
Et bonjour.
Vous êtes confrontée, si je puis dire, au plus transgresseur des transgresseurs, l'adolescent.
Les ados, j'en ai deux à la maison.
Et ça va bien.
Pardon.
Et ça va bien quand même.
Mais oui, ça va super bien. C'est des petits gars adorables. Mais en même temps, il y a un côté extrêmement usant à être confronté en permanence à leurs transgressions. Alors c'est du quotidien. Hein. C'est vraiment des petites choses. C'est des douches qui n'en finissent plus, qui nous vident le chauffe-eau en deux-deux. C'est des petites choses qui moi. Donc quand ils étaient tout petits, on parlait plutôt de désobéissance plutôt que de transgression. À mon avis, et maintenant qu'ils sont plus grands, je veux dire, la limite, je ne sais pas trop où elle est, mais simplement pour le vivre ensemble, je trouve que c'est parfois usant, parce que nous, parents, enfin moi en tout cas, j'ai toujours envie de garder ma bonne humeur, mon mari c'est pareil, et surtout qu'ils ont plein de qualités par ailleurs, mais toutes ces petites transgressions du quotidien, mais ça me saoule, c'est usant, voilà, et je ne sais pas, j'aimerais avoir votre avis. Alors je sais que le Born to be me, tout ça, qu'ils se construisent, qu'il faut qu'ils soient eux et qu'on n'est pas, va pas falloir qu'ils nous obéissent des années et des années, mais c'est pour comment leur faire comprendre que nous on a aussi des contraintes, et puis il faut qu'ils nous fassent confiance aussi, en fait. Mais non, il y a toujours un moment où, je sais pas, c'est comme de la provocation. Enfin, je le vis comme ça, nous on le vit comme ça.
Écoutez, peut-être que Caroline Pénaud peut vous réconforter, parce qu'elle cite dans son magazine Ça m'intéresse, une enquête suédoise qui s'est penchée sur la trajectoire de 1000 personnes pendant 40 ans, et il se trouve que les ados les plus désobéissants, les plus insolents, ont une réussite entrepreneuriale bien plus importante que les autres. Caroline Pénaud.
Oui, c'est une étude qui s'est penchée sur le devenir des adolescents sur une quarantaine d'années, donc assez sérieuse, et en plus qui montre qu'effectivement, alors on pense à des gens comme Bill Gates, Steve Jobs, etc., que les adolescents rebelles vont être des créateurs d'entreprises, vont mieux réussir. Ça marche essentiellement pour les garçons dans cette étude-là. Voilà, c'est des ados qui faisaient le mur, qui répondaient à leurs parents, des choses comme ça. Après, quand la transgression devient plus intense, c'est pas forcément vrai. Mais en tout cas, c'est ce que montre cette étude. Après, ce qu'on peut dire à notre auditrice aussi, c'est que pour les adolescents, il y a eu des recherches qui ont été menées sur le cerveau. Et c'est vrai que l'immaturité de leur cerveau fait qu'ils vont moins anticiper les conséquences dans leurs actes. Donc c'est vrai qu'on peut l'expliquer, évidemment pas seulement physiologiquement, mais il y a un petit peu ça. Donc malheureusement pour ça, il y a surtout la patience qui va fonctionner. Pour les conseils psy, je donne la parole peut-être à
monsieur. On va écouter évidemment Daniel Marcelli. Je voulais juste vous lire la phrase d'un célèbre auteur qui nous dit « Cette jeunesse est insupportable, sans retenue, simplement terrible. Notre monde atteint un stade critique, les enfants n'écoutent plus leurs parents. » Ce n'est pas un vieux grincheux du 21e siècle qui nous dit ça, mais un poète grec du 8e siècle avant Jésus-Christ, Hésiode. Donc ça ne date pas d'hier, hein, le problème, le rapport en tout cas parfois problématique avec les adolescents, Daniel Marcelli.
Oh là oui, les expressions, les citations comme ça abondent, qui montrent que désormais les adolescents n'écoutent plus rien, les jeunes ne respectent plus les parents. Ça fait des millénaires qu'on dit ça, donc le monde d'aujourd'hui devrait être absolument effrayant. Alors bon, les adolescents, effectivement, je remercie Caroline Penaud de l'avoir dit, les adolescents un peu impertinents, les adolescents un peu provocateurs, les adolescents qui respectent pas toujours le cadre sont parfois plus créatif, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, les 9% qui respectent tout, c'est peut-être pas les plus ouverts, les plus épanouis. Alors pour rassurer Caroline, eh bien oui, effectivement, ces adolescents, ils la cherchent. Et bien, je crois que c'est aussi quelque chose qu'il faut bien comprendre des adolescents, c'est que souvent ils adorent, mais vraiment ils adorent, c'est l'expression que j'utilise, appuyer sur le bouton qui déclenche l'excitation des parents. Ça, alors, c'est ce qu'ils aiment beaucoup, et quand le parent répond à ça et se décharge son énervement ou son impatience, alors l'adolescent a l'impression de mener son parent par le bout du nez. Voilà. Et donc il y a là une espèce de plaisir à double plaisir. À la fois on déborde, on transgresse la règle, on est sous la douche, on prend son temps, et puis maman elle me casse les pieds, moi je m'occupe de moi, de ma toilette, etc. Et puis d'un autre côté, effectivement, on excite un peu, on énerve un peu papa, maman, voilà. Donc il y a, je dirais, presque double plaisir. J'ai le privilège d'un certain âge, et ça c'est intéressant, intéressant. Peut-être ça me renvoie à quelque chose d'il y a 60 ans, 70 ans, quand je voyais les premiers les adolescents. Beaucoup d'adolescents refusaient de se laver et voulaient pas se laver. Aujourd'hui, plus aucun adolescent refuse de se laver. Au contraire, il refuse de sortir de la douche. Vous voyez,
c'est ce que disait Caroline, parce que son ballon d'eau chaude est vidé. Mais Caroline, est-ce que vous êtes rassurée d'avoir entendu et à la fois ce que disait Caroline Penaud et Daniel Marcelli?
Oui, je suis rassurée. Bon, j'avais pas forcément, j'avais pas forcément besoin d'être rassurée. Si quand même, parce que c'est vrai que savoir que beaucoup de gens vivent la même chose, les gens qui sont pas toujours dans les clous non plus, forcément, ça fait des gens un peu plus créatifs, qui se cherchent, qui se trouvent peut-être mieux. Donc oui, c'est sûr. Après, au niveau de la patience, bon, ok.
Le quotidien est parfois compliqué, on vous comprend, Caroline, vous comprendre.
Voilà.
Mais néanmoins, bon courage et puis passez de bonnes fêtes de fin d'année. Merci de nous avoir rappelé au 01 45 24 7000. Yves-Alexandre Talman, est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même le beau geste de la transgression? On peut penser par exemple à Maradona qui nous a quittés cette année avec cette fameuse main, ce but en or contre l'Angleterre lors du quart de finale pendant la Coupe du Monde 1986. C'était absolument transgressif, c'était magique, et aujourd'hui ça c'est devenu une sorte d'icône.
Oui, et je mettrais ça en lien avec ce que nous disait l'auditrice, à savoir les adolescents qui poussent, qui font même, on va dire, un sport, que de défier l'autorité, de pousser dans les règles. Et là, d'avoir justement cette nuance pour dire qu'est-ce qu'on peut tolérer et qu'est-ce qu'on ne tolère pas, parce que c'est en fait ça que cherche l'adolescent, c'est la limite du sens, parce qu'il y a plein de règles dont on voit pas forcément le sens. Alors, du moment où on a fixé une règle et que cette règle...
Enfin, ne pas jouer avec les mains au football, la règle a du sens.
Oui, bien sûr. Mais là, vous serez d'accord avec moi, c'est une exception. Par contre, pour l'ado qui vide le chauffe-eau avec sa douche, moi, je vois des conséquences beaucoup plus simples. C'est de programmer un petit appareil qui fait qu'après 3-4 minutes, eh ben, il n'y a plus d'eau chaude. Et là, je vous assure que l'ado, il sort illico de la douche. C'est-à-dire qu'il paye le prix direct de sa transgression.
La règle, d'Yves-Alexandre Talman. En tout cas, ce que vous racontez aussi dans votre journal, ça m'intéresse, Caroline Penaud, c'est qu'il y a un besoin fondamental de la transgression.
Bah c'est dans la droite ligne de ce qu'on disait par rapport à l'enfant qui va apprendre à transgresser les règles. Et ensuite, on va garder ce besoin de temps en temps un peu d'être en dehors des clous, de penser out of the box. Parfois, transgresser la règle aussi, ça donne un sentiment d'être plus malin que les autres et un sentiment de liberté, tout simplement, qui fait du bien, même si c'est passager, même si, comme notre auditeur tout à l'heure disait que c'était par jeu, c'est vraiment d'avoir des petites soupapes, des moments où on va effectivement se dire « bon ben voilà, j'ai fait ma propre règle à ce moment-là ».
Éric Libiot.
Non, mais c'est vrai que j'ai toujours l'impression que finalement l'adolescent, puisque c'est là où se passe la désobéissance, il y a un besoin de s'affirmer comme individu. Puis après, c'est à chacun de mesurer entre l'affirmation de l'individu et le bien commun et appartenir à une société, et que on est constamment, suivant les psychologies, les cultures, l'hérédité peut-être même, entre se battre, entre cette façon de s'affirmer, parce que transgresser, c'est aussi s'affirmer en tant qu'individu, et puis se rendre compte qu'on a quand même un bien commun, qu'on a à vivre en société avec d'autres gens. Donc il y a systématiquement là des vases communicants entre l'un et l'autre. J'ai l'impression que ça fonctionne un peu comme ça.
Eh bien, merci à tous d'avoir été en direct avec nous dans Grand Bien Vous Fasse aujourd'hui. Et puis merci à vous, évidemment, de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. Cette émission peut se réécouter quand vous voulez, où vous voulez, sur franceinter.fr ou sur la plupart des plateformes de podcast. On se retrouve demain à 10h. Pour nous intéresser, non pas à la transgression, mais aux doudous. Et pas ceux des enfants, mais ceux des adultes. Il y en a sûrement plus nombreux qu'on ne le pense qui continuent à avoir des doudous. Il n'y a pas de honte à l'avouer. Sur l'appli de France Inter, on attend déjà vos confessions.